Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Huh? You ain't so black. You ain't so white, baby.
Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux Cultural Studies, ou études culturelles dans notre bonne vieille langue de Molière, un phénomène beaucoup plus prégnant dans les cultures anglo-saxonnes et US que chez nous. Toutefois, le phénomène est en train petit à petit d'arriver en France. Aussi, il nous a semblé intéressant d'aborder le sujet avec un invité de marque, puisque c'est David Da Silva, auteur de Cultural Studies et Hollywood, Le passé remanié, paru aux éditions Leitmotiv. Bonjour David.
Bonjour Jérôme.
Alors, pour causer Cultural Studies, je suis aujourd'hui accompagné de mes fidèles acolytes. Il y a tout d'abord Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
Également à nos côtés, il y a Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et bien évidemment, salut à toutes!
Accompagné aujourd'hui donc de David Da Silva. David Da Silva donc, qui a travaillé sur le sujet des Cultural Studies, puisqu'il a fini par en faire un ouvrage. Mais tout d'abord, j'ai envie, David, de te poser une question avant qu'on rentre vraiment dans le débat, mais dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Mais comment tu définirais, toi, pour nos auditrices et auditeurs, de manière assez simple, quoi, ce que sont les Cultural Studies?
Alors, de manière assez simple, c'est compliqué parce que mon bouquin il fait presque 400 pages. Il y a 800 notes, je crois, quasiment de bas de page. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe à expliquer pour un public qui n'est pas habitué à ce genre d'analyse. Pour faire simple, je peux faire un petit peu l'historique. Et puis en même temps, ça permettra peut-être aux gens de comprendre plus facilement. C'est qu'aux États-Unis, au départ, il fallait historiquement expliquer un petit peu ce qu'était l'histoire américaine, la culture américaine, etc. Donc il y avait un département d'American Studies où on essayait de définir donc philosophiquement, historiquement, culturellement ce qu'était être américain. Et progressivement, ça a laissé sa place à un autre département qui s'appelait donc les Cultural Studies et qui s'est inspiré d'un mouvement qui est né en Angleterre dans les années 60, hein, principalement, avec des gens comme Richard Hogarth. Et c'était finalement de dire que la culture dominante, c'est toujours la culture bourgeoise, hein, des gens les plus riches qui dominent la société. Et il fallait plutôt s'intéresser, pour vraiment comprendre une culture dans sa globalité, il fallait aussi s'intéresser aux cultures marginales. Donc on allait s'intéresser aux cultures punk, aux cultures ouvrières, etc. Et progressivement, ça a influencé donc les cultural studies américains qui sont apparus et qui, eux, ont repris donc cette idée de s'intéresser aux cultures marginales. Mais d'un autre point de vue, alors autant les cultural studies anglo-saxons d'Angleterre, donc qui misaient beaucoup sur le conflit de classe, sur la culture ouvrière, aux États-Unis, on n'aime pas trop le conflit de classe, donc on a plutôt axé sur l'identité. Donc c'est devenu cultural studies identitaire. Donc on s'est intéressé à finalement toutes les identités, toutes les cultures qui n'auraient pas été représentées dans la culture WASP depuis le début de l'histoire américaine. Donc c'était la culture afro-américaine, la culture gay, la culture amérindienne, etc., etc., la culture féminine. Donc voilà, pour faire simple, c'est un regard différent sur l'histoire qu'on estime biaisée parce qu'elle représente certains intérêts, les intérêts des gens les plus puissants dans la société, et c'est de s'intéresser à l'histoire d'un autre point de vue, d'un point de vue des oubliés de l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
Non, si, c'est assez clair. Bah, de toute façon, en avançant dans le débat, ça va devenir de plus en plus clair. Hein, mais, et pourquoi, j'ai envie de te poser aussi, avant de rentrer vraiment dans le débat, une deuxième question, mais c'est pourquoi as-tu choisi, toi, d'écrire sur ce sujet ?
Alors, tout d'abord, j'avais eu une discussion quand j'écrivais ma thèse. C'était en 2014, j'avais discuté avec un scénariste et réalisateur américain, Ewood Gould. Je ne sais pas si tu vois, mais... C'est quelqu'un qui a notamment écrit « Légitime violence » de John Flynn, « Cocktail » aussi avec Tom Cruise. Et en fait, je discutais avec lui pour ma thèse sur le populisme américain. Et puis, il m'avait dit qu'en fait, il en avait marre de bosser pour les studios parce que lui, il avait grandi dans un quartier pauvre. Et il me disait qu'en fait, il avait grandi avec des Afro-Américains, des Mexicains. Les gens se côtoyaient, ils se parlaient. Et après, il me disait qu'en fait, il en avait marre que les studios américains, que les médias américains, en fait, ils biaisent cette vision plutôt unificatrice de la société américaine pour toujours axer sur des conflits identitaires. Il disait que voilà, fallait, dans les scénarios hollywoodiens, il faut toujours faire les blancs contre les noirs, etc., etc. Et déjà, ça m'avait interpellé, parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop Cultural Studies, je connaissais de manière vraiment très caricaturale, hein. Je ne m'étais pas vraiment intéressé, mais ça m'avait interrogé. J'avais trouvé cette réflexion intéressante. En fait, il me disait qu'en gros, dans la vie réelle, les gens se parlent beaucoup plus, sont beaucoup plus amis, etc., que ce que représentent les films et les médias. Voilà, donc lui, c'était son interprétation. Et puis ensuite... Alors c'est plus récent, c'était en 2018. J'ai été invité à un colloque à l'université Paris Diderot, et c'était sur les fictions historiques. Et moi, étant donné que je commençais à faire des recherches là-dessus, j'ai proposé ce sujet, ils ont accepté. Et donc j'ai fait énormément de recherches. Et après, j'avais tellement de matière sur ce sujet que j'en ai fait un livre. Et voilà. Donc c'était surtout analyser les films à partir des années 2000, les films historiques américains à partir des années 2000, et comment idéologiquement, finalement, ils étaient très marqués et orientés.
D'ailleurs, on va un peu ouvrir les hostilités. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est en quelque sorte, on peut dire que, bon, parce que tu l'as dit, les cultural studies... Ils partent de Grande-Bretagne, ils partent de la New Left, la Nouvelle Gauche. Hein, il y a des intellectuels, des chercheurs qui sont dans le renouvellement de l'analyse marxiste. Hein, je ne veux pas perdre les auditrices et auditeurs, quoi, mais qui sont plutôt dans ce, intellectuellement de ce bord-là. Et pourtant, le phénomène va s'implanter, tu l'as dit toi-même, outre-Atlantique. Alors, et va se transformer... effectivement, quelque chose de très, quelque part, de très communautariste, hein, qui va de pair avec les communautarismes américains et en gommant tout l'aspect marxiste, quand même, des recherches originelles, quoi, des cultural studies originelles.
Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aux États-Unis, ils n'aiment pas trop le conflit de classe. Donc, en fait, ils ont biaisé un peu le discours pour orienter vers le côté identitaire. Donc, après... Et comme tu l'as dit, aux États-Unis, c'est un pays, bon, je dis tout ça dans le bouquin, hein, c'est un pays différentialiste, c'est un pays communautaire, donc ça les a arrangés de biaiser le discours originel de conflit de classe pour en faire uniquement un conflit identitaire, quoi. C'est les identités, et on met de côté totalement, enfin de mon point de vue, ils mettent vraiment beaucoup de côté le côté social, c'est-à-dire riches et pauvres, ça devient uniquement un conflit entre des blancs, des noirs, des hommes, des femmes, etc. Et ça biaise beaucoup ce qui était très intéressant à l'origine dans les cultural studies.
Mmh. Oui, ils ont été totalement dévoyés, leur sens initial est dévoyé, et d'ailleurs, ça donne quand même, parce que moi, ce que j'ai du mal un peu à saisir, c'est comment on en est arrivé là aujourd'hui dans la production cinématographique, c'est-à-dire à ce que les... Alors, il y a différentes... On verra après l'envie de réécrire le passé aussi, de réécrire l'histoire, mais en tout cas, dans la production actuelle, moi, ce qui m'épate, c'est l'influence des cultural studies très forte. On le voit, par exemple, là, récemment, il y a eu un Black Christmas qui n'est pas vraiment un remake du film de Bob Clark, qui est une catastrophe, qui sous couvert de plein de bonnes intentions, et qui est un film qu'on peut qualifier de réactionnaire, quoi. Comment on en est arrivé là, en fait ? Parce que c'est assez... moi, je trouve ça assez effrayant, en fin de compte, quoi.
Bah, ça s'explique tout simplement... par l'éducation, c'est-à-dire que les cultural studies sont implantés dans l'éducation américaine, donc dans les universités notamment. Donc en fait, les gens qui dominent à Hollywood, c'est souvent des gens qui sont passés à l'université, donc principalement ils ont ce logiciel de pensée. Donc voilà, ils pensent un peu tous de la même façon. Il y a quelques petites poches de résistance comme Clint Eastwood, etc., la vieille école, mais principalement maintenant c'est quelque chose qui domine. Et en plus, au niveau du public, comme on sait que aux États-Unis c'est surtout les jeunes qui vont au cinéma, et ça plaît à ce nouveau public qui est totalement éduqué là-dedans, quoi. C'est leur vision du monde, et moi je le vois aussi, je suis enseignant, je vois qu'en France c'est la même chose, hein. C'est le rapport de classe, ça parle plus du tout aux étudiants, etc. C'est que des conflits identitaires maintenant. Donc on voit qu'en France, c'est la même chose, hein. On a totalement, alors je vais pas dire lobotomisé, mais en tout cas, on a totalement chamboulé la vision des conflits sociaux, quoi.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Cultural Studio. Ce qui est très étonnant, c'est que ça arrive. On n'est pas un pays, en fait, la France n'est pas un pays traditionnellement communautariste. Voilà, dans son histoire, y compris dans son histoire récente. Et pourtant, on est en train de vivre un moment de bascule actuellement. Enfin, il y a eu le discours d'Aïssa Maïga au César, il y a eu aussi la censure d'une pièce de théâtre, il y a eu, pour comment dire, une histoire de blackface, mais qui tient pas vraiment dans le cadre de cette pièce, puisque il y a une vraie raison pour le faire. C'est quand même, j'ai envie de dire, c'est très étonnant que le phénomène arrive en France quand même, je trouve, à ce point-là. Et aujourd'hui, on a un peu, pour sortir du cinéma, on a un peu aussi ce débat-là qui arrive dans le cadre public avec cette histoire des statues qu'il faut déboulonner, qu'il faut... c'est assez étonnant cette volonté. Moi, ça ne me gêne pas, si tu veux, qu'on arrive à retravailler le matériau historique et tout ça et tout, qu'on a une réflexion là-dessus et tout ça. Ça me paraît même sain, logique. Il y a un historien, la Blanchard, qui a sorti un très bon bouquin sur le colonialisme. Il dit, lui, qu'il faudrait un musée du colonialisme en France et tout, et on peut être que d'accord avec lui. Mais ce qui me fait peur, moi, dans tout ça, c'est que ce qui part de bonnes intentions amène à de la censure, quand même.
En fait, moi, je trouve que c'est un discours ambivalent, parce qu'en fait, tout ce qu'ils disent dans les médias actuellement en France... c'est fait dans l'éducation. L'éducation nationale maintenant, elle axe beaucoup les cours, notamment d'histoire, là-dessus, quoi, sur l'esclavage, etc. Donc, si les gamins ils sont un minimum attentifs à l'école, ils savent très bien qu'il y a eu un passé colonial en France, que la France, comme tous les pays, elle a fait des choses bien et des choses moins bien. Et puis après, il faut composer avec ça, ce qui est pas facile. C'est pas quelque chose de caché, c'est pas l'éducation des années 50. Donc c'est ça que je comprends pas non plus, c'est qu'on a l'impression qu'on a des discours contestataires sur quelque chose qui n'existe plus, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de films racistes, à l'école, comme je viens de le dire, on apprend déjà le passé colonial français. Qui a été fait de mal, qui a été fait de bien, on étudie la guerre d'Algérie. Donc si les gamins ils sont un minimum attentifs, ils sont un peu curieux, ils bossent un peu à l'école, ils ont toutes ces notions-là. Après, le problème de ça, c'est que l'histoire, c'est aussi quelque chose qu'on mythifie pour unir un peuple. Et à partir de là, on peut déboulonner tout le monde, en fait. Toutes les figures historiques, on peut les déboulonner. J'en parlais hier avec mes étudiants. Au Ghana, on a retiré une statue dans une université de Gandhi, tu vois, parce que dans un de ses discours, il avait mis en avant que selon lui, les Indiens, ils étaient supérieurs aux Africains. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on va déboulonner tout, on va faire table rase de tout le monde, en fait, parce que ce sont des hommes, hein, c'est les hommes, les personnages historiques, c'est des hommes, donc c'est des gens imparfaits qui ont fait des choses bien, des choses moins bien. À partir d'un certain moment, il faut se mentir un petit peu et puis idéaliser ce qu'ils ont fait de bien principalement, et puis se créer une histoire commune, des valeurs communes. Et puis dans un pays, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, ce qui a permis aux États-Unis de fonctionner pendant quelques années d'ailleurs, parce que malgré tout, ils étaient unis derrière une certaine histoire et la bannière américaine. Puis là, c'est en train de se fracturer de partout, quoi.
Et mon acolyte Damien, c'est un jeune en plus, un jeune universitaire, donc qui rentre dans le débat, qui veut poser une question.
Moi, je vais un peu repartir sur les films et les cultural studies. Donc, tu as cité Black Christmas de manière un peu différente. Moi, c'était l'exemple de Ghostbusters 3 avec les femmes qui m'avait un peu perturbé, parce qu'on se retrouve à une époque où finalement, on refait des anciens films en reprenant finalement des trames qui sont déjà faites, et on y inclut du coup une diversité, mais c'est un peu une diversité forcée où on a juste la représentation physique plus que le dialogue. Et des fois, quand il y a le dialogue, c'est un peu assez étrange, parce que le film nous explique que, est un peu médisant, nous mettant une position qui nous explique que nous, on est des personnes misogynes ou discriminatoires en général, et qu'on n'a pas compris que c'était ça qu'il fallait faire depuis le début. Et nous, on regarde le film en se disant, mais non, film, moi, je suis avec toi depuis le début, arrête de m'agresser, je suis un de tes partisans. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, quand ces films qui sont mauvais sortent, on peut les reprocher un peu aux cultural studies de Hollywood de vouloir donner cette image moderne de bon élève qui répond aux problèmes. Mais du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a aussi des bons films qui sont enrichis par les cultural studies?
Ah oui, il y a des bons films. Moi, il y a des films que j'aime beaucoup. Kingdom of Heaven, de Ridley Scott qui est très bon, hein, même s'il biaise l'histoire, bah, il est très intéressant. Après, il y a d'autres films hein, qui sont très intéressants. The Danish Girl aussi, hein, qui malgré que le discours soit historiquement très biaisé, bah, c'est un film intéressant. Voilà, ça met ce Harvey Milk. Moi, ce que je trouve bien dans les cultural studies et les films historiques, c'est que c'est vrai que ça a renouvelé un petit peu la représentation au cinéma des grands personnages historiques. De ce point de vue-là, ça a mis en avant des gens que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Voilà. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, pour revenir à la question de Jérôme sur pourquoi ça s'impose autant, j'explique aussi dans le bouquin que c'est aussi du business. C'est-à-dire que quand on axe Ghostbusters sur les femmes, c'est qu'en fait, on s'intéresse aussi beaucoup à un public féminin pour qu'ils viennent dans les salles. Et donc, c'est un film aussi fait pour eux. C'est qu'en fait, le cinéma, il s'est adapté au cultural studies pour s'adapter aux différents types de spectateurs. Comme le Fordisme, c'était quelque chose d'assez uniforme, qui voulait vendre à la masse, bien, les cultural studies, avec la société marchande, c'était plutôt adapter le marché aux différentes personnes, aux différents segments de marché. Et le cinéma, c'est ça aussi, quoi. C'est vrai qu'on réinterprète certains faits historiques d'un certain point de vue, c'est pour amener dans les salles des personnes qui ne seraient pas forcément venu voir un film qui était trop axé sur justement toujours le même personnage de mâle, masculin, blanc, etc., hétérosexuel, etc.
On a aussi, là tu citais des films qui sont bons, effectivement Kingdom of Heaven c'est même excellent, enfin bon, mais on a aussi un phénomène inverse, il y a aussi... parfois des films qui en deviennent un peu incompréhensibles, ou voilà, bon, je citais Black Christmas, mais du coup, moi, je me pose la question, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais par exemple, des films aussi ambigus et qui brassent des problématiques quand même assez difficiles à affronter, je pense par exemple au Chien de paille de Peckinpah, même au Blue Collar de Paul Schrader, par exemple, où il y a à la fois un discours racial, un discours de classe, enfin, il y a une grande richesse dans le film, et puis il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'un cinéma aussi ambigu que ça, il a encore son mot à dire avec les cultural studies, avec le poids qu'elle pèse?
Blue Collar, c'est un très bon exemple, parce que c'est justement un film, alors je l'ai vu il y a longtemps, hein, mais de mémoire, il m'avait marqué, parce que justement, il montrait comment l'intérêt de classe pour les ouvriers américains, après, il était dévoyé, parce qu'on les divisait. Il y avait Richard Pryor, hein, le personnage incarné par Richard Pryor, après, il était hostile justement à ses amis ouvriers blancs. Donc, je trouvais que c'était un film très intéressant. C'était le diviser pour mieux régner, quoi. Et puis, il y a plein d'autres films qui ont opté pour cette analyse. Hein. Je cite aussi dans le bouquin Matthew Wan de John Sayles, qui est exactement là-dessus. Hein. Il montrait bien comment, à chaque fois, le grand patronat il divisait ethniquement les ouvriers pour qu'ils se fassent la guerre, plutôt qu'ils s'unissent face à ceux qui les oppriment. Donc, il y a beaucoup de films qui ont mis en avant ce côté-là. Après, le problème, c'est que les films, ils sont maintenant très manichéens. Alors, il y a Three State of Jones, que j'analyse dans le livre, avec Matthew McConaughey, que moi, j'ai trouvé très intéressant, parce que justement, il dépasse ça. Il se passe sur un fait historique, et il montre bien comment, à un moment donné, le petit fermier blanc... envoyé de force à la guerre de sécession, bah, il va s'unir avec des esclaves opprimés. Et puis ensemble, ils vont se dire, bah, en fait, on a plus de choses en commun que de différences. Voilà, ça, c'est des films intéressants qui sont à la fois basés sur les cultural studies, mais qui élargissent ça pour mêler au conflit identitaire traditionnel américain le rapport de classe. Et moi, je trouve que c'est un film très intéressant, mais qui n'a pas marché. Et qui est finalement peu connu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu.
Oui, j'ai vu que tu y consacrais aussi effectivement une partie importante du livre. J'ai vu. Moi, le film m'avait intéressé. Après, je ne m'avais pas passionné, mais il m'avait intéressé, effectivement. Je ne sais pas si Thomas, tu l'avais vu, toi ?
Non.
Tu ne l'avais pas vu, d'accord. Mais il m'avait intéressé, puis... C'est vrai que c'est un point de vue historique sur un personnage. Moi, j'ignorais complètement avant de voir le film, en fait. Il faut dire les choses.
Ouais, moi aussi, hein, je ne connaissais pas du tout. Et apparemment, dans l'histoire américaine, dans les livres d'histoire américains, il est totalement occulté aussi. Mmh. Et c'est dommage, parce que c'est des personnages comme ça qu'il faut, et des histoires similaires qu'il faut mettre en avant dans l'histoire américaine. C'est justement cette espèce d'union. Et en fait, même dans l'histoire américaine réelle, et j'en parle dans le bouquin, il y a eu des fermiers noirs et des fermiers blancs qui se sont unis, hein, et, etc., etc. Mais ça, c'est occulté de l'histoire américaine. C'est-à-dire, en fait, on met en avant que les conflits identitaires. Et on évite de montrer le conflit de classe qui a permis d'unir, finalement, les différentes personnes au-delà de leurs différences identitaires.
Vous écoutez David Da Silva, auteur de Cultural Studies et Hollywood, le passé remanié, paru aux éditions Leitmotiv, au micro de Culture Prohibée.
Il y a un autre film qui est intéressant, c'est, moi j'aime beaucoup, c'est Invictus de Clint Eastwood, où en fait, en parlant de Mandela et de l'Afrique du Sud, en fait, il parle des États-Unis. Et le discours du film, c'est pareil, c'est un film qu'il faudrait montrer dans toutes les écoles, parce que le discours unificateur du film, il est magnifique. Alors, moi je le passe souvent à mes étudiants, et puis je leur demande de réfléchir dessus, parce que moi je trouve que c'est un très très bon film, alors que c'est considéré comme un Clint Eastwood mineur. Alors que, par les temps qui courent, je pense que c'est un film, c'est vraiment un film important.
Alors c'est pareil, je vais revenir à Free States of Jones, hein, mais il y a aussi quelque chose que tu fais dans ton livre qui revient souvent. Tu fais des tableaux comparatifs, en fait, en reprenant des données, souvent du site IMDb d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que sur Free States of Jones, le public qui plébiscite le film, c'est les moins de 18 ans, quoi, vraiment.
Ouais, bah ça c'est un procédé que j'utilise souvent pour montrer que parfois ceux qui parlent au nom d'eux, hein, c'est souvent les associations qui parlent au nom de la communauté afro-américaine, gay, etc. Bah parfois ils ont un discours qui correspond pas forcément à ce qu'on retrouve dans les avis des spectateurs. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant des problèmes qui peut-être, pour la majorité des spectateurs, bah, en fait, il n'y a aucun problème à regarder un film. Ils ne se sentent pas du tout offensés. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'intéressant, la différence entre médiatiquement le problème qu'on met en avant et ce qu'il y a réellement voilà, dans la société, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que Christopher of Jones, on constate que les jeunes ont beaucoup aimé, peut-être justement parce que ça leur montrait une autre facette de l'histoire américaine. Habituellement, c'est un peu plus manichéen que ça. Et là, c'était intéressant parce qu'il y avait une espèce d'union comme ça des opprimés, peu importe leur identité. Et je pense que ça les changeait un petit peu des autres films historiques Cultural Studies.
Après aussi, c'est pareil, quand tu utilises ces données-là, ce qui est intéressant, c'est que tu démontres aussi très souvent que... Alors moi, j'aime bien citer l'exemple du film Hidalgo de Joe Johnston, qui, pareil, est un film qui n'est pas si mauvais que ça, hein, qui est un film assez critiqué pourtant, enfin assez critiqué d'un point de vue négatif, je veux dire. Et tu le cites et tu... Le film a été perçu, tu expliques, comme antiféministe et tu... Et dans les analyses qui ressortent dans les perceptions du public, les femmes ont énormément apprécié le film, en fait. Ce paradoxe entre les cultural studies et les goûts du public revient très fréquemment dans ton livre aussi.
Ben oui, parce que c'est ceux qui parlent au nom des cultural studies. Alors, évidemment, comme c'est leur fonds de commerce pour valider leur existence, il faut toujours qu'ils trouvent des problèmes en disant, voilà, telle représentation, ça va pas, etc., etc. Et puis, encore une fois, on se rend compte que le public, en général, souvent, il ne trouve pas du tout de problème, quoi. Donc, il y a toujours cette dichotomie entre le discours analytique, cultural studies, universitaire, et puis le spectateur un peu lambda qui, lui, regarde un film et puis se pose beaucoup moins de questions en général et il est beaucoup moins offensé.
Pardon. Alors, tu disais tout à l'heure qu'en France, il n'y a plus de films racistes, etc. Pourtant, moi, je trouve qu'au contraire, les comédies françaises, ce qu'on appelle la comédie populaire française, je la trouve de plus en plus réactionnaire, je la trouve aussi raciste. Quand je vois les films de Philippe de Chauvron, les trois derniers qu'il a fait, je trouve que ce sont des films racistes, bien au contraire. Sous couvert de le dénoncer, en plus.
Tu parles de qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc.
Ouais, et à bras ouverts.
Alors ça, j'ai pas vu. Alors après, c'est des films racistes. Je sais pas, moi j'ai pas vu, je peux pas te dire. Après, on est dans la caricature, pas fine, sans doute. Je sais pas, je peux pas me prononcer, mais est-ce que c'est vraiment des films racistes? J'en sais rien, tu vois. Je trouve que le terme il est excessif, quoi. Après, une comédie, ça fonctionne dans la caricature, et on est tout, de toute façon, le cinéma, il fonctionne sur la caricature, sur le stéréotype et la caricature, peu importe. Et malheureusement, quoi qu'il arrive, on fonctionnera là-dessus. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, La Cage aux Folles, est-ce que tu le considères comme un film homophobe?
Non, mais par contre, la Cage aux Folles, on rit avec les personnages, on ne rit pas d'eux. Ouais. Tandis que dans les films que j'ai cités, là, on rit des personnages, avec des clichés où il n'y a pas de distance avec les clichés. On est vraiment dans le populisme à fond, quoi.
Mais est-ce que tu penses que, de toute façon, ils ne critiquent pas tout le monde? Parce que, bon, je n'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a le personnage de Clavier qui m'a l'air d'être un gros beauf dedans, tu vois. Donc, en fait, le français de base, beauf, un peu raciste, je pense qu'il en prend aussi pour son grade, en fait. Il caricature tout le monde, quoi.
Oui, mais ouais. C'est celui qui s'en sort le mieux, aussi.
Mais moi, je pense, personnellement, pour avoir vu un seul de ses films, le premier, là, celui que... Enfin, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est des films bêtes, en fait. Je pense juste que c'est bête.
Je pense qu'il y a quelque chose d'opportuniste et de bête,
quoi.
Aussi.
Mais bon, parce que après, par exemple, il y a une polémique en ce moment qui agite, on en discutait hors antenne, une polémique qui agite un peu le monde culturel, là, c'est aussi toute cette histoire autour d'Autant on emporte le vent. Et des différentes traductions là, qui viennent de paraître, une chez Gallmeister et puis une chez Gallimard, parce que c'est tombé dans le domaine public. Enfin, chez Gallimard, c'est la traduction historique, hein, celle qu'on connaît. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Parce que moi, je trouve qu'il y a... Enfin, merde, on ne découvre pas quand même le sous-texte et le contexte aussi d'Autant on emporte le vent, quand même. On le sait, quoi. Enfin, ce n'est pas une nouveauté.
Bah, c'est des anachronismes. On ne contextualise pas, quoi. Je veux dire, à son époque, c'était quasiment un film progressiste, quoi. L'actrice... Alors, c'était Hattie... McDaniel. Hein.
Oui, c'est ça, Tim McDaniel.
Ouais. Elle avait obtenu un Oscar, tu vois. Donc, d'une certaine manière, c'est un film progressiste. Moi, dans le bouquin, je parle des films de John Ford avec Will Rogers et Stephen Fetchit. Bah, tu les regardes aujourd'hui, je veux dire, c'est une caricature, Stephen Fetchit. Hein. Son personnage, c'est une caricature. Hein. Enfin, aujourd'hui, ça passe mal. Mais dans le contexte de l'époque, c'était un progrès, quoi. Parce que le personnage de Will Rogers, il prenait sa défense et il y avait un vrai lien d'amitié entre eux, quoi. Donc, je veux dire, tu montres aujourd'hui le film, bah, ça va choquer tout le monde. Mais dans le contexte des années 30 aux États-Unis, donc on recontextualise l'œuvre dans le contexte, etc., bah, c'était un film progressiste. C'est ça, on marche sur la tête, quoi. Les gens, ils font des anachronismes. Ils analysent des choses avec le regard du présent, quoi. Il faut contextualiser, et puis parce que ça n'a plus aucun sens. Hein. Je veux dire, il y a la même polémique avec le code noir, tu vois, avec le code noir de Colbert. Si tu remets dans l'époque, ça n'a pas tout à fait la même signification que si tu le regardes froidement aujourd'hui à notre époque, tu vois. L'historien, il est obligé de contextualiser. Comme l'historien du cinéma, comme quand tu fais n'importe quelle analyse, quoi. Sinon, ça n'a aucun sens, tu vois. Moi, je trouve que c'est des faux débats. C'est limite une perte de temps, quoi. Je comprends pas comment on peut en parler encore dans les médias.
On en parle beaucoup, quand même. On en parle beaucoup, voilà, C'est étonnant, mais je pense que c'est dû aussi à... Moi, je ne sais pas, toi, dans les relations que tu as avec tes étudiants, mais je pense que c'est dû aussi à une sorte de pression sociétale. Je pense que ça agite effectivement une partie de la société et puis qu'il y a des groupes de pression idéologiques. Hein. Il y a un article dans le Canard Enchaîné que j'ai lu il y a peu, là, qui explique un peu les accointances aussi avec des groupes comme les Indigènes de la République, tout ça, avec... pas forcément des gens recommandables, quoi, avec des discours qui sont des discours aussi excluants, des discours dangereux, hein, des discours d'obédience fasciste, quoi. Hein, mais donc c'est aussi ce contexte-là peut-être qui explique ça.
Bah, de toute façon, le discours se radicalise. Étant donné qu'on a un discours identitaire un peu radical, et ben en fait, ça le l'identité blanche qui se réveille, et puis ça fait une opposition, donc on a des suprémacistes blancs qui affrontent d'autres suprémacistes, et puis voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, c'est pour moi les deux ne valent pas mieux l'un que l'autre, hein. c'est deux choses, c'est deux suprémacistes qui s'affrontent, et puis voilà, puis c'est la situation américaine où là j'ai vu qu'on crée des camps, l'afro-américain il crée des camps et c'est interdit aux blancs. Voilà, ils veulent créer des espèces de camps, voilà, un peu comme les hippies avant, et c'est interdit aux blancs, ils veulent vivre entre eux, avec leurs lois, interdit à la police, etc. etc. Donc c'est une résurgence de ce qu'on a connu dans les années 60-70. C'est exactement la même chose, hein, en réalité, c'est l'histoire radote. Et voilà, faut juste se rappeler qu'aux États-Unis, le mouvement hippie, contestataire, etc., Cultural Studies, ça aboutit dans les années 80 à l'arrivée de Reagan au pouvoir et au néolibéralisme à fond les ballons. Voilà. Donc moi je pense qu'on va suivre le même processus, c'est-à-dire qu'on accentue les tensions identitaires au moment où il y a une crise sociale qui va arriver et qui va faire très très mal. On va occulter les vrais problèmes sociaux pour, encore une fois, toujours axer sur les problèmes identitaires.
Musically, musically, musically. identity. An identity. Jah work must be done. 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 We work in the east. We work in the west. We work in the north. We work in the south. We work over there. We work over here. We work everywhere. We work over there. We work over here. We work everywhere.
Écoutez David Da Silva, auteur de Cultural Studies et Hollywood, Le passé remanié, paru aux éditions Leitmotiv, au micro de Culture Prohibée. Tu dis que l'histoire bégaye, mais par contre, il y a une grosse différence entre les années 60 et aujourd'hui. C'est-à-dire que, on va le dire simplement, un autre monde était possible. Aujourd'hui, on ne sait pas trop de quel autre monde on parle. Enfin, politiquement, il n'y a pas de débouché à l'espoir qui pourrait être manifesté par une éventuelle convergence des luttes, y compris qui pourrait se traduire artistiquement, je veux dire. Hein, mais on ne sait pas où on va, en fait, quoi, globalement.
Bah, je partage ton avis. Hein, on ne sait pas où on va. Alors là, maintenant, je propose dans mon bouquin une solution, enfin pas une solution, mais un futur possible. Hein, je dis que finalement, le futur tel qu'il était prévu, c'était la robotisation et l'intelligence artificielle à fond. Donc, une perte d'emploi massive pour beaucoup de gens. Et là, il n'y aura pas de distinction identitaire. Hein, si tu dois perdre ton boulot, que tu sois une femme, un homme, un noir, un hétérosexuel, il n'y aura pas de distinction. Hein. Et tu seras au chômage et revenu universel. Et ben là, peut-être, on va arriver à une espèce de lutte où les gens, toutes les minorités là qui se sont affrontées, et ben tout le monde va devoir s'unir pour essayer vraiment de changer la société. Voilà, peut-être, on verra. On peut pas prédire le futur, mais c'est une possibilité.
Je voulais revenir sur le fait qu'on parlait des films qui pouvaient être compliqués, dont la vision même de ce qu'ils pouvaient dire pouvait être inversée. Et je pensais notamment au fait qu'aujourd'hui, on a aussi on a parlé des mauvais films, des bons films, et aussi il y a un entre-deux qu'on pourrait dire les films un peu plus moyens, qui sont des films qui abordent le sujet, mais de manière très très lisse, voire uniquement en surface. Pour moi, l'un des exemples, l'une des marques qui représente le mieux cet exemple, c'est Netflix, qui propose énormément de contenus variés, qui abordent les sujets tels que l'homosexualité en général. Et en fait, c'est des films que je trouve extrêmement lissés, dont finalement la question n'est posée qu'en surface et que c'est pas vraiment travaillé. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, si finalement, parmi la production des films qu'on va voir dans les dernières années, est-ce que du coup le nombre de films lissés va augmenter pour finalement attirer non seulement le public auquel le film s'adresse, mais un autre public potentiel qui pourrait être intéressé par ce genre de choses? Ou est-ce qu'on va avoir une sorte de résurgence, de révolution d'affrontement qui va se faire avec des films bien plus complexes et ambigus pour finalement créer un malaise et éventuellement poser de vraies questions, pas seulement ouvrir les gens à la question, mais les obliger à débattre?
C'est compliqué, hein. C'est une question qui est complexe. Le cinéma américain, en général, ils aiment bien faire simple. Il faut que ça soit manichéen. Donc est-ce que ils vont aller dans l'ambiguïté et aller contre un discours qui est quand même là maintenant assez dominant dans la jeunesse américaine, dans les universités américaines? C'est compliqué, hein. Il suffit de voir aujourd'hui quels films sont vraiment politiquement incorrects. C'est très très rare, hein. Je citais Clint Eastwood tout à l'heure, mais bon, il a 90 ans. Il y a qui d'autre sinon qui est vraiment comme ça contestataire aux États-Unis, qui a un discours intéressant et ambigu? C'est compliqué, hein. Il y a un peu Stallone, mais bon, Stallone c'est plus caricatural que Clint Eastwood. Sinon, ça se compte sur les doigts de la main, hein. En général, Hollywood, ça représente la population de la côte des deux côtes, hein, de la côte est et côte ouest. Donc plutôt la population, pour faire simple, plutôt huppée des États-Unis et puis les gagnants de la mondialisation, et puis l'Amérique du milieu qui représente le petit américain de base, il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà, il y a Clint Eastwood, il y a Stallone, et puis il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, finalement. Donc moi, je pense qu'on va plutôt aller vers un cinéma qui va continuer à explorer le côté cultural studies un peu caricatural, parce que c'est ce qui domine actuellement aux États-Unis, et c'est très très compliqué d'aller contre ce discours, parce qu'aux États-Unis, la moindre critique, ça te classe déjà du côté Trump. Donc voilà, médiatiquement, c'est pas facile à porter, ça, l'étiquette Trump.
Mais justement, ça vient aussi en France. Donc il y a eu le débat il y a 2-3 ans là, à propos de Détroit, de Catherine Bigelow. Est-ce qu'une femme blanche, bourgeoise, peut réaliser un film sur une émeute qui s'est passée à Chicago, sur une émeute d'Afro-Américains? Et dernièrement, avec la sortie de Black Panther, qui est quand même un film réalisé par un Afro-Américain et joué par une grande partie des Afro-Américains ou même des Africains, il y a des Camerounais dans la distribution, le critiquer, c'est se faire taxer de raciste. J'étais taxé de raciste par une nana parce que je disais que le film n'était pas terrible. Je disais même pas que le film était nul, je disais qu'il n'était pas terrible. Et la nana me dit « Ouais, si tu dis ça, parce que c'est un film fait par des Noirs, etc. » Bon, déjà, il est produit en majorité par des Blancs, donc il y a quand même une confusion au niveau du discours, etc. En plus, en creusant un peu, à l'époque, Idrissa Ouédraogo venait de mourir, et la fille ne connaissait même pas Idrissa Ouédraogo, quoi. Donc, pour elle, sa référence de film réalisé par des Noirs, c'était Black Panther. Donc, tout ce qui est Blaxploitation, les années 70, etc., ou même les cinémas africains, c'était table rase. Donc, j'aimais pas Black Panther, donc je suis raciste. On en est quand même à ce discours-là, quoi.
Et puis, c'est des arguments imparables, hein. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, finalement? En plus, si tu te défends, limite, t'aggraves ton cas. Donc, il faut que tu aimes le film, même si tu n'aimes pas, voilà. Et en fait, moi, j'avais discuté avec des amis qui me disaient la même chose avec le film sur Freddie Mercury, quoi. Et des limites, si t'aimais pas, peut-être t'étais un peu homophobe, et puis etc., etc. Donc, bah ouais, c'est un argument critique qui est imparable, quoi. T'es obligé d'aimer le film, sinon tu es contre la minorité qui est représentée.
Ah, c'est un peu embêtant, hein. Surtout que, bon, moi, je trouve qu'un cette année, un des films les intellectuellement les plus stimulants qui soient venus du cinéma américain, c'est l'affaire Richard Jewell, quoi, je trouve, d'Eastwood, qui est un film vraiment, vraiment passionnant, quoi. Voilà, enfin, mais on va me taxer d'être libertarien. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, David? On peut plus rien faire, là. On est foutu, là.
Ton exemple, il est très bon, parce que moi, j'ai souvent cité ce film. C'est ce film-là, il est excellent, parce que qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'en fait, pourquoi le personnage a été inculpé, tu vois, dans le film? Pourquoi il a été inculpé, en fait?
Il est inculpé parce qu'il a le profil pour être inculpé, on va le dire comme ça.
Ouais, mais parce que c'est un beauf américain.
Ouais, c'est voilà, ça. Oui,
la réalité, c'est ça.
Et que Eastwood magnifie pas en plus, il le fait voir tel qu'il est, quoi, avec sa mère, tout ça, enfin voilà.
Ah, voilà, exactement. Il le fait voir comme un être humain, quoi, quelqu'un, voilà, qui a des défauts, etc. Et en fait, ce qu'il montre dans le film, parce que là, on est dans un discours victimaire, tu sais, des minorités dans le cinéma. Alors moi, je soupçonne Clint Eastwood d'avoir fait ce film-là exprès. C'était pour montrer qu'en fait, les beaufs américains qu'on présente comme les finalement les tortionnaires, les machins, et ben en fait eux aussi sont victimes de préjugés. C'est-à-dire que lui qui avait rien fait, au contraire, c'était un vrai héros. Et ben juste parce qu'il avait le prototype du beauf américain, il aimait les armes, il n'était pas très cultivé, etc. Il était patriote, etc. Et ben en fait, et ben il a subi finalement les mêmes préjugés, quoi. C'est-à-dire que être blanc, américain, WASP, ça te protège pas des préjugés.
Avec la machine qui s'emballe, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, à partir d'une rumeur, voilà, ça y est, ça devient la cible idéale.
Ouais, tout à fait. Moi, j'en parle dans le bouquin. Je dis que le beauf américain, il pourrait aussi se plaindre dans les médias, parce que la représentation qu'on fait de lui, souvent dans les films, on est passé de James Stewart dans les années 40 à aujourd'hui le redneck, quoi. On parle avec n'importe qui, la représentation de l'américain moyen, c'est Richard Jewell, quoi. C'est le beauf inculte qui aime les armes et qui est potentiellement dangereux. Voilà, donc.
Et qui est gros, parce qu'il mange mal aussi.
Oui, ça c'est une évidence. L'américain moyen, maintenant il est en surpoids.
Voilà, non, mais c'est important parce que dans le film, on voit aussi que les gens qui le traquent, comme ce type du FBI ou même cette journaliste, ils sont beaux, ils sont minces, ils sont dans les canons esthétiques, tout ça. Je pense pas que c'est fait par hasard de la part d'Eastwood.
Ils font partie de l'élite médiatique, l'élite, espèce d'élite judiciaire américaine, etc., etc. Et il met en avant, l'américain de base, quoi, le petit gars un peu beauf, célibataire. Qui aime les armes, machin, Moi, pour moi, ce film-là, à l'époque où il a été fait, c'est pas par hasard, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment un message derrière, quoi. C'était vraiment, on a compris, les films sur Cultural Studies, qui montrent toujours les minorités comme persécutées, là, il a fait un film sur une histoire vraie, sur, un blanc américain moyen qui lui aussi a été persécuté sans raison et qui a échappé de peu à la peine de mort. Donc je trouvais ça intéressant pour bien montrer que finalement c'est pas une question d'identité, c'est aussi une question de statut social, de préjugés qu'un gouvernement peut avoir sur une certaine catégorie de personnes, et ça en fait ça peut toucher tout le monde sans distinction. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée par Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. You got to know when to hold up. Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to